Farnell Morissette est avec nous en studio. Farnell, ça serait-tu une meilleure idée de jaser Donald Trump avec du Enya comme trame de fond?
Ben, je pense que c'est la seule façon de faire ça. Et pas, parce que tu sais, si on en a encore pour 3 ans et 10 mois, je pense qu'on va passer la discographie au complet d'Enya.
Ça prend Enya pour venir calmer les choses un peu. Farnell Morissette, toujours un plaisir quand tu passes nous voir ici à Rage Against le matin, vulgarisateur d'actualité. Si vous ne le suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, allez le faire. C'est un must, je vous le dis. Farnell, jason Donald Trump un peu. Est-ce qu'on commence? Je le dis avec un sourire en coin, mais est-ce qu'on commence à finalement comprendre un peu la stratégie de négociation Trump?
Ben, je pense que ce qu'on voit, c'est... Je sais pas si on comprend la stratégie au complet, mais il y a certainement un motif qui ressort qui est... On fait des annonces de menaces, on met une date butoir à 3 semaines, 1 mois, puis on laisse les gens paniquer chez eux. Puis là, quand vient le temps de négocier, on attend la dernière heure. Des fois, on va faire un point de presse avec les gagnants de la Coupe Stanley en attendant pour faire pour roter un petit peu plus. Et puis, on annonce que finalement, non, tout est bon. On a un autre sursis d'un mois et on, comme on dit en anglais, wash, rinse, repeat. Alors, ça commence à ressembler à ça. Je dis pas qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Il faut absolument prendre au sérieux. Mais il faut aussi, tu sais, c'est pas l'annonce, c'est pas la politique. L'annonce, c'est l'annonce. Et il faut voir ça comme plus une menace que comme une garantie.
Farnell, est-ce que Donald Trump a la maladie du pas de filtre? Dans le sens que des fois, je me sens mal pour son entourage, son équipe. On dirait que chaque fois qu'un journaliste ou une journaliste lui pose une question, puis ça peut être une question très sérieuse d'une situation X, Y, Z, il sent l'obligation de donner opinion ou solution ou peu importe. T'sais, il y va, peu importe, là, t'sais, il y va, puis des fois c'est grossier, puis des fois c'est, il coupe les coins ronds, mais on dirait qu'il n'est pas capable de juste se taire ou pas dire de quoi sur un sujet. Y a-tu la maladie du pas de filtre?
Je suis pas dans la tête de Donald Trump, alors je sais pas si c'est justement qu'il est pas capable de s'arrêter ou si tout ça est calculé d'avance. C'est comme... c'est un être un peu chaotique en termes de la façon qu'il fait ses relations interpersonnelles, ses négociations. Est-ce que c'est vraiment que c'est un hyper méga génie de 4000 points de quotient intellectuel, comme certains de ses partisans disent, puis tout est planifié d'avance, chaque déclaration folle rentre dans une stratégie, ou est-ce que c'est juste que c'est un gars qui a une idée qui rentre dans la tête puis ça sort immédiatement de la bouche? Je ne sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais nous, il faut qu'on réagisse à ça, et puis nécessairement, c'est pas toujours facile à faire.
Justement, je vais arriver sur la réaction. On dit souvent dans la vie qu'on contrôle que ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes, on ne contrôle pas l'autre être humain qui est avec nous. Fait qu'il faut que tu prennes une bonne shot de nos pilules d'anxiété puis réagir plus calmement ici au Québec et au Canada.
Ben, c'est difficile à faire parce qu'on n'est pas habitué à être dans une situation où il faut prendre tout ce qu'un chef d'État des États-Unis dit comme si c'était un « peut-être ». Mais oui, et aussi inconfortable que ce soit, il faut qu'on accepte que quand on parle de Donald Trump, on est toujours dans l'incertitude. On peut essentiellement comme le voir comme une boîte noire duquel émane du bruit. Et des fois, dans ce bruit-là, il y a quelque chose qui s'avère être vrai. Des fois, dans ce bruit-là, il y a quelque chose qui s'avère être une fantabulation complète. On le sait juste pas. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé en disant « Attendons là, la réalité, même si ça veut dire qu'on sait pas ce qui s'en vient. » C'est pas l'annonce qui fait la politique. C'est vraiment ça qu'il faut se rappeler.
Est-ce qu'à tout le moins, si on réagit à toutes ces déclarations, faudrait tenter de le faire un peu plus à porte close, tu sais, un peu plus en privé? Ça m'agace, me semble, qu'on fasse 8 conférences de presse par jour sur Donald Trump. On dirait que c'est donner de l'attention aux garçons qui cherchent de l'attention, justement.
Je pense que ça rentre dans la stratégie qui, aux États-Unis, qui s'appelle « flood of the zone », l'espèce d'inondation de la zone, qui est de faire le plus de déclarations choc possible, le plus rapidement possible, pour forcer tout le monde, justement, à réagir en public, parce que les déclarations ont été faites en public, ce qui donne l'impression qu'on est en contrôle complet de la négociation, du narratif, des nouvelles. Mais en même temps, pouvez-vous vous imaginer si demain matin, Donald Trump fait un énième annonce sur... je vais imposer des tarifs sur, je sais pas, là, le coton qui vient du Canada. Il n'y en a pas, on s'entend. Ouais. Mais quand même. Et puis là, tous les politiciens disent « Ah, non, nous, on ne va pas réagir. » Ça serait impensable. Un politicien ne peut pas se permettre ça quand on fait des déclarations choc de même, de dire « on va se calmer, on va aller négocier en privé avec... Non, non, ça, quand l'annonce est faite en public, il faut que la réponse soit en public aussi.
Farnell, en anglais, on va dire « don't poke the bear », tu sais, donc « gosse pas l'ours » parce que, tu sais, il va se réveiller puis fort probablement, il va te mob. C'est le cas avec Donald Trump. On sait qu'il y a action, réaction, ouais, toujours avec Donald Trump. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux tarifs réciproques?
C'est intéressant, les tarifs réciproques, parce que de toutes les choses que je trouve un peu déraisonnables de l'administration Trump, c'est probablement une des moins déraisonnables.
OK.
Je dis pas ça en appui au principe, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ici et il faut quand même comprendre, c'est un peu un changement de paradigme. Quand on parle de tarifs, on peut essentiellement les diviser en deux grandes catégories. Tu as des tarifs par produit et des tarifs par pays. Un tarif par pays, généralement, c'est un outil de pression économique. C'est quand les gens parlent de guerre économique, souvent on parle un peu de ça. Ça, c'est par exemple ce que M. Trump menace le Canada et le Mexique, dire 25 % de toutes les importations qui viennent et du Canada et du Mexique vont avoir un tarif. Ça, c'est un tarif qui vise un pays. Il y a aussi des tarifs qui visent des produits. Ça, c'est, par exemple, les États-Unis ont des tarifs sur les importations de sucre. C'est bon, il y a un économiste de quelque part qui va me corriger, dire, c'est pas des tarifs, c'est des quotas tarifaires, je comprends, mais ça revient à peu près au même. L'idée, c'est que les importations de sucre aux États-Unis, peu importe d'où ils viennent, ont un tarif. Mm-hmm. Puis les États-Unis font ça pour protéger leur marché local du sucre. Alors que le sucre vienne du Brésil, de l'Inde ou de l'Europe, c'est pas grave, c'est le même tarif pour tout le monde. Des tarifs par produit, c'est pas généralement vu comme étant quelque chose qui existe pour mettre pression politique sur d'autres pays. C'est généralement vu comme étant quelque chose qui est un outil économique interne à un pays. C'est sûr que si vous êtes un pays exportateur de sucre et les États-Unis ont un tarif de 20... je sais pas, présentement, je pense que c'est à peu près 6,8% sur le sucre, c'est pas le fun, mais c'est pas vu comme étant quelque chose qui rentre dans des négociations punitives, okay, entre les pays, par exemple.
Quel est l'avantage de faire justement des tarifs par produit? T'sais, les tarifs par pays, on le comprend, je me lance dans une guerre commerciale, j'espère faire flancher ce pays-là, mais par produit, c'est quoi le but visé, l'objectif?
Généralement, un pays qui fait des tarifs par produit fait ça pour protéger une industrie locale. Alors, bon, encore une fois, l'exemple du sucre aux États-Unis, c'est qu'il y a de la production de produits sucrés, de sucre, entre autres, mais aussi de sirop de maïs aux États-Unis, qui est très importante pour l'économie aux États-Unis. Alors, pour protéger cette industrie-là, il y a un tarif sur les importations du sucre à l'international. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que M. Trump fait présentement. Il propose de connecter ces deux concepts-là. Alors, par exemple, le Brésil a un tarif d'importation d'à peu près 18 % sur l'éthanol.
Okay.
Ça, c'est l'éthanol qui vient n'importe où au monde. L'éthanol canadien, l'éthanol des États-Unis, l'éthanol de l'Europe, 18 % ce qui fait que c'est sûr que si vous êtes un producteur d'éthanol aux États-Unis, c'est pas une grosse consolation se faire dire « Oui, oui, mais c'est tous les pays au monde qui ont le tarif de 18 % car toi, tu veux exporter de l'éthanol au Brésil. » Surtout si tu apprends après ça que le tarif d'importation d'éthanol aux États-Unis, c'est 2,5 %. Mm-hmm. Si tu es un producteur d'éthanol, là, c'est pas grave que tous les pays au monde ont ça. Toi, tu as ça, puis ça te fait mal. Alors, ce que l'administration Trump propose de faire, c'est de regarder tous les pays et tous les tarifs d'importation par produit dans chaque pays, pays par pays, et voir quel impact ça a sur l'industrie aux États-Unis. Alors, de traiter tous les tarifs par produit de chaque pays comme si c'était des tarifs sur les États-Unis et répondre avec un tarif réciproque par pays sur ce pays-là en fonction de ses tarifs d'importation.
C'est-tu juste moi qui trouve ça incroyablement complexe, compliqué, puis de la job en tabarouette d'y aller tarif pour tarif, produit pour produit, pays par pays?
Oui, c'est énormément... C'est très, très compliqué. C'est des chiffres qui sont extrêmement complexes, qui peuvent être débattus à l'infini. Et puis, on peut se comprendre que, vu la complexité des chiffres réels en jeu et la vitesse avec laquelle ça va être fait, il va probablement avoir de l'influence politique là-dedans, parce que jamais je vais croire que dans le prochain mois, le gouvernement des États-Unis va être capable de faire une révision complète de chaque pays, de chaque tarif, puis arriver à un chiffre, dire, l'Inde, en moyenne, sur nos produits, c'est 22 %, alors ça va être 22. Ça devient tellement facile de dire, j'aime plus l'Inde que j'aime l'Italie, alors l'Inde va avoir 18, puis l'Italie va avoir 20.
Ouais. Mais justement, c'est-tu tellement... à la limite même de l'absurde de dire que Trump va pouvoir imposer ça à tout le monde, que on regarde ça et on se dit c'est une vraie menace en l'air pour mettre de la pression sur à peu près tout le monde, mais que c'est pas applicable.
Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble à la stratégie de Trump de dire justement bon, ben, il y a des tarifs qui s'en viennent. Alors, venez négocier avec nous, là. Venez donc passer une fin de semaine à Mar-a-Lago. On va jouer un peu au golf, on va jaser. Vous allez arriver à une entente négociée qui va faire mon affaire ou au moins quelque chose que je vais pouvoir me virer de bord, dire à ma base, regardez les gains, on a encore gagné. Ça ressemble plus à ça, mais encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas dans la tête de M. Trump, puis je suis content de pas l'être.
Venez me voir, on va jouer au golf. Tiger Woods sera peut-être là.
Ah ouais, exactement. Après, je vais embarquer dans l'avion et je vais vous imposer des tarifs. Hey, blague à part, le Canada, Donald Trump a encore dit à quel point le Canada était méchant avec les États-Unis hier de façon économique. Et là, il s'attaque à la TPS et à la taxe verte. Est-ce qu'il y a raison quand même de dire que c'est désavantageux pour les États-Unis, notre TPS puis la taxe verte sur les produits électroniques?
Ça revient un peu à la différence entre les tarifs par produit et les tarifs par pays. Un tarif, c'est une taxe. Alors, si un pays a une taxe sur quelque chose, bon, ben, on peut le voir comme un tarif si on est aux États-Unis puis on veut vendre nos biens puis on apprend que tous nos biens ont, par exemple, au Québec, 15 % de taxes. Mais ça, c'est pas un tarif sur les États-Unis, c'est une taxe sur tout le monde. Mais reste que, bon, M. Trump semble prendre la position que le seul pays qui a le droit de taxer des produits qui sont faits aux États-Unis, c'est les États-Unis. Ouais. C'est une position qui ça vire sur l'impérialisme économique avec l'espèce de loi romaine où les citoyens romains ont une loi puis les citoyens de toutes les colonies ont des lois différentes. Je j'aime pas ça. Je pense pas qu'il y a grand personne qui vont apprécier ça dans l'ordre international. Mais viser la TPS en particulier parce que, bon, ben, il y a des produits des États-Unis qui doivent la payer, c'est un peu comme si le Canada se virait de bord puis disait, ben ouais, mais nous, quand on vend, par exemple, du sirop d'érable au Vermont, ben on paye la taxe du Vermont, tu sais. On va pas s'indigner contre ça. Alors, c'est une position qui est encore une fois, disons, très peu orthodoxe dans la façon de faire des pays à travers le monde présentement, dont les États-Unis. Je pense que c'est plus une position de négociation qu'autre chose.
Farnell, en terminant, est-ce que Donald Trump, donc par le fait même les États-Unis, est-ce qu'ils sont capables de maintenir ça? T'sais, nous, on en entend beaucoup parler des négociations avec le Canada, avec le Québec. Ça nous touche, c'est dans les médias. Mais on réalise que c'est du cas par cas pour plusieurs pays dans le monde. On s'étire-tu trop mince, comme on dit? On est-tu capable économiquement de se pogner avec tous ces pays-là en détail sur les tarifs, les produits puis les taxes qu'on impose?
Trump sait qu'il ne peut pas faire une guerre économique à la planète au complet. Et je pense que ça se reflète dans sa stratégie qui est de diviser pour conquérir. Il parle du Canada, le Mexique, il parle de l'Europe séparément, on parle de tarifs qui vont avoir lieu à des endroits différents pour des demandes différentes. Alors, ça donne toujours l'impression que, ah ben si nous, on est capable de régler nos problèmes avec les États-Unis, le reste du monde, c'est pas grave. Ouais. Nous, on a notre problème, puis c'est ça, puis sinon, on règle ça. Éventuellement, ça va plus fonctionner, ça. Éventuellement, il va y avoir des blocs de pays qui vont se dire, bon, ben écoute, si tu veux pas jouer avec nous, c'est correct, on va jouer entre nous, là. Et puis, bon, ben, c'est sûr que ça va nous faire très mal. Faut pas faire semblant qu'on peut du jour au lendemain tout virer nos exportations vers l'Europe, vers le Mexique. C'est pas possible, ça va faire extrêmement mal. Mais je pense qu'éventuellement, surtout les pays qui ont déjà des économies plus diversifiées, je pense à l'Union européenne, l'Inde, le Brésil, vont pouvoir dire, bon, ben écoute, là, c'est correct, fais tes petites crisette, M. Trump. Nous, entre nous, on s'est négocié une entente qui va faire en sorte qu'à long terme, on va être capable de se passer de ce qui se passe aux États-Unis. Puis ça va commencer à faire mal aux États-Unis quand ça va arriver.
Farnell Morissette, vulgarisateur d'actualité, ami de Rage Against le matin. Vous l'entendez, vous l'appréciez énormément lorsqu'il est avec nous dans l'émission. Vous le suivez, je l'espère, sur les réseaux sociaux. Farnell, merci encore une fois pour ça ce matin, cher ami. Toujours super intéressant, puis vraiment le fun de jaser actualité avec toi.
Merci, puis bonne Saint-Valentin à tout le monde.
Merci. Max, circulation?
Vraiment pas chic pour un vendredi matin, c'est terrible. Laurentienne-Sud, fermeture, sortie boulevard Wilfrid Hamel S, sortie droite, les services d'urgence qui sont sur place. Pompier-la-Porte, c'est terminé pour la panne, le remorquage qui a été complété, mais pour un vendredi, ça n'a pas de maudit bon sens comme à Sto Rouge. Ça aussi, Capitale-Est, là, il y a eu des problèmes un petit peu plus tôt, ça va un petit peu mieux, mais présentement, c'est plus Capitale-Ouest qui est problématique entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa-Sud vers le boulevard, le Bourgneuf, c'est Benjamin, Arcade-Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest au Rouge aussi. Pas compliqué, on se créerait un mardi-mercredi, mettons, ouais. Pas un vendredi matin où d'habitude c'est bien mollo. Là.
Et certainement pas un jeudi matin dans Tempête, parce qu'il n'y avait personne ces routes, faut le dire. Courte pause à Rage Against le matin. Ensuite, on jase de la situation des cols bleus de Québec avec Marc Rangé, notre spécialiste en négociation syndicale.
Boulevard 102.1.